Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Merce Cunningham, 1919-2009. Une vie, une œuvre pour ses rediffusions a décidé de jouer au jeu des pères, pères d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi et sa moitié le dimanche. Hier, nous étions avec John Cage. Alors aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était danseur et chorégraphe, de celui qui ne jurait que par son chronomètre et la logique implacable du hasard, et qui a été le grand amour et le grand complice de John Cage. Sur les photos, Merce Cunningham a l'air d'un faune, les yeux espiègles, les cheveux bouclés, et souvent, il danse, il tourne sur lui-même, ou il traverse le cadre en un élégant grand jeté. Sur d'autres, il pose avec John Cage, l'un regarde l'autre, et il semble toujours s'amuser. En juste au corps, en collant, en chaussettes ou vêtu d'un polo ajusté, il est gracieux, long et dégingandé. Parfois, il porte un danseur ou une danseuse, le regard au loin, le dos droit, et il semble solide malgré sa minceur. On le voit vieillir, les cheveux blanchissent, la peau se ride, mais son corps traverse le temps, toujours souple, toujours gracile, toujours solide. Et ce n'est qu'à la toute fin de sa vie qu'apparaît dans le cadre une béquille. Il faut dire que John Cage est mort depuis quelques années. Tout de suite, écoutons Merce Cunningham par Mathieu Garrigou-Lagrange et Isabelle Huel.
Alors c'était comment ce cours?
Ah bah voilà, parfait.
Comment
ce cours selon la méthode de Cunningham?
C'était bien. C'est, je sais pas, moi j'aime bien tout système de forme, de volume, de... Ouais, je sais pas.
C'est une danse assez frontale, esthétique, voilà, et du coup ça permet de se replacer, de travailler nos muscles aussi, enfin d'être moins dans le relâché et peut-être du coup travailler plus simplement.
Non, même entre toutes les formations de danse, celle du conservatoire est quand même basée essentiellement sur le Cunningham. Enfin, il y a quand même il y a une base Cunningham.
Ici à Paris ou de manière générale?
Au conservatoire de Paris.
Et donc le jour où il est mort, vous vous en souvenez? Enfin, ou le jour où vous l'avez appris en tout cas?
Pendant les vacances.
Ouais,
c'était pendant les vacances. On en a parlé juste à la rentrée vu que ça s'est passé. Mm. Je me souviens qu'on était ensemble, qu'on allait à la soirée de notre classe et que beaucoup n'avaient pas pu venir. Et on en avait discuté. Enfin, moi, je l'ai appris comme ça. On en avait parlé. Enfin, quelqu'un avait dit Merce Cunningham est mort et voilà. Et c'est vrai que c'est. Puis c'est, en plus, du coup, vu qu'on a les cours au CNSM basés sur cette technique, bah, je sais pas. C'était assez triste. En fait.
Ça va?
Ouais.
Alors Raphaël de Gubernatis, la thèse un peu de Cunningham, c'était en anglais « motion is not emotion », le mouvement n'est pas l'émotion. Qu'est-ce que ça signifie, ça, exactement?
Oui, ça signifie une chose très intelligente, qui est très nouvelle. Et c'est ça, en ce sens que tous ces Américains ont été révolutionnaires pour nous. C'est que le mouvement vaut comme une sculpture pour sa beauté elle-même. Il n'a pas besoin de traduire un sentiment. Et c'est intéressant de voir l'immensité de la révolution que ça a apporté. J'étais il y a quelque temps à Cuba et l'on voyait des danseurs magnifiques qui essayaient à travers leurs mouvements d'exprimer des émotions, qui étaient une bêtise épouvantable. C'était une espèce de pathos invraisemblable parce que ils imaginaient que plus on ouvre les yeux, on les écarquille, plus on saute en l'air, plus on est comment dirais-je expressif, mais d'un expressionnisme excessif et ridicule, et mieux l'on danse. Non, évidemment pas. L'intérêt de cette option de Cunningham comme de Nicolaïs, c'est de montrer que le mouvement vaut par sa beauté même, par la recherche qu'on a effectuée sur le corps. Et c'est fabuleux. Et d'ailleurs, l'émotion existe quand même, mais elle ne naît pas de quelqu'un qui veut vous imposer sa propre émotion. Elle naît de la beauté du mouvement ou de la beauté de l'espace.
Et alors donc c'est une sorte d'épure?
Oui, évidemment.
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5,
T-shift et through the ankle. Tu les positions de...
Alors, Denise Luciani, vous avez intitulé l'un de vos articles sur Merce Cunningham, Merce Cunningham, le malentendu. Qu'est-ce que c'est que ce malentendu autour de Merce Cunningham ?
Je dirais, de manière extrêmement schématique, que ce qu'on aime en France, c'est qu'on nous raconte des histoires, et que la danse raconte des histoires, et quand on va voir Merce Cunningham, eh bien, Merce Cunningham, il ne raconte aucune histoire. Ou bien, il nous en raconte tellement... Sans dire quoi que ce soit, qu'on est capable d'imaginer nous-mêmes l'histoire qu'on veut.
C'est ça peut-être le malentendu, c'est que oui. Vous dites qu'en France, on attend du spectacle qu'il tisse un lien entre ceux qui jouent et ceux qui regardent, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est juste une performance. On s'assoit dans la salle et puis on regarde. Il se passe quelque chose, mais finalement, on n'a rien à faire. Alors qu'ici, en France, il faudrait qu'on comprenne, toujours, c'est ça ?
Oui, il faut toujours qu'on comprenne. Mais la différence avec le monde anglo-saxon, c'est beaucoup la langue. Hein. C'est la langue. Ce que j'expliquais dans cet article, c'est quand on va voir un spectacle en France, on va assister à une représentation, avec tout ce que ça représente de l'histoire du spectacle en France. Et quand on va voir quelque chose dans un pays anglo-saxon, on va voir une performance qui est en fait une action, avoir quelque chose qui est en train d'être fait. Ça n'a rien à voir. Représentation, c'est une image, finalement, avec tout le poids de la tradition et des siècles de tradition qui pèsent sur l'épaule des artistes. Et quand on va voir une performance, performance en anglais, pardon, c'est pas ça.
Encore pas de musique pour le...
C'était quoi, en fait, si on décompose tous les mouvements que vous avez faits, c'est quoi, à l'instant?
Oh, all the movements. Yeah. Ok, so, on fait une combinaison pour sauter. C'est les échappés, sauter à la seconde. En classique, vous avez une pas qui s'appelle ballonner. Les ballonner, les jeter... Toujours dans les combinations Cunningham, les triplets.
C'est quoi une triplette?
Une triplette, c'est le cornerstone.
La pierre angulaire.
Oui, que la technique pour voyager. Et voilà.
Je laisse travailler. Oui.
Ok.
Donc Dylan Crossman, je voudrais juste commencer très simplement avec vous en évoquant la première fois où vous avez entendu parler de Merce Cunningham. Vous êtes un jeune danseur à Montpellier. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu parler de ce chorégraphe ?
J'avais commencé à danser en fait dans une petite école. J'avais 17 ans et chacun des cours dans cette école avait le nom d'un chorégraphe célèbre. Donc il y avait Pavlova, il y avait Cunningham, il y avait Maddox, il y avait tous ces gens, beaucoup de noms américains, des gens de la danse moderne américaine. Et donc j'ai dit, mais c'est qui Cunningham? Et puis on m'a un peu raconté que c'était un pionnier, un peu un mec extraordinaire, qui travaillait sur des choses un peu avant-gardistes, qui aimait pousser les limites, mais j'en ai pas su plus. Et à l'époque, je me suis pas vraiment renseigné en fait. Et ensuite, c'est quand j'ai été à l'université où là, j'ai vraiment découvert, j'ai étudié la danse et là, j'ai vraiment appris son histoire, ce qu'il a changé au niveau de la danse moderne et du monde de l'art du 20e. Et j'ai aussi étudié sa technique. Je suis tombé amoureux, en fait, avec ce que la manière dont la technique me faisait sentir, en fait, vraiment la compréhension du corps était quelque chose que j'avais jamais ressenti dans aucune autre danse. Donc j'ai étudié à Londres et après 3 ans à Londres, je me suis dit, il est temps de bouger à nouveau, je voulais aller ailleurs. Et j'ai toujours été très attiré par les États-Unis, justement à cause de leur la manière dont ils travaillaient un peu, ce côté physique à fond. J'avais encore dans mon esprit les images dans les années 80, les studios de danse, avec 50 danseurs dans un studio, ça me faisait rêver quoi. Tout le monde qui bosse à fond, qui transpire comme un fou, j'adorais les images. Alors en même temps, je pensais bien que c'était un peu cliché et que c'était sûrement plus comme ça vraiment, mais j'avais envie d'aller voir, et j'avais envie d'aller voir plus tôt et j'étais pas tout à fait prêt. Et donc après l'université, en fait, je me suis dit vraiment, c'est le moment d'y aller quoi. Et puis un jour, par hasard, dans le papier, j'ai vu un article qui disait que le studio faisait une audition, en fait. Ils ont, parce que la compagnie travaille et il y a une école attachée, donc l'école Merce Cunningham. Et ils ont des bourses. Et donc il y avait une audition pour des bourses. Et je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai vu l'affiche dans le journal la veille. Donc c'était vraiment un truc de dernière minute. Et là j'y étais au studio, j'ai pris un cours. Je me suis rappelé de tout ce que j'avais à l'université adoré à propos de la technique. La manière dont ça te prenait le corps, que c'était vachement physique, mais à la fois tu traversais, tu voyageais beaucoup dans l'espace. C'est vraiment une très grande technique où des fois les pas sont aussi petits que tu peux et des fois tu danses aussi grand que tu peux. C'est vraiment une technique de l'extrême. Et j'adore les studios. C'est magnifique. C'est au 11e
Pourquoi
étage.
Il est comment ce studio?
Ben, c'est au 11e étage dans le Greenwich Village et c'est vraiment... c'est magique. Enfin, la compagnie avait été depuis des années et on sentait l'aura de Merce, quoi. Dès qu'on rentrait... on le sentait, il était là et c'était un espace gigantesque, surtout pour New York, très grand, très ouvert. Il y avait des fenêtres immenses sur toute la ville et j'ai tout de suite aimé l'endroit.
En dehors de ma fenêtre, dans ma loge, je regarde toute la bottom, au fond de Manhattan, avec le World Trade Buildings and the Statue of Liberty et les bateaux, oui, oui.
Et la lumière.
Et la lumière, oh oui, oh oui. Nous avons les sunset, oh.
Le coucher du soleil.
Le coucher du soleil, oui, qui vient de New Jersey. Et ce sont extraordinaires parce que la pollution et le soleil, les couleurs sont extraordinaires.
Et alors le premier cours
J'ai pris pas mal de cours... dans l'école, parce qu'en fait, on commence en tant que débutant, puis on va intermédiaire, avancé. Et puis un jour, j'ai été invité à prendre un cours avec Merce, et je crois que j'ai pas respiré de tout le cours. C'était, je n'arrivais pas à le croire, quoi. D'être en cours avec le maître, c'était vraiment un truc que j'avais jamais imaginé. Je me rappelle à l'université, voir des vidéos et me dire. Cette technique est tellement difficile, c'est impossible. Il faut être né comme ça, je pourrais jamais le faire, c'est trop dur. Je me rappelle d'avoir vu la compagnie danser et je me disais, c'est pas possible. Tout ce que je me rappelle, c'est de les voir sur demi-pointe pendant des heures et de me dire, je sais pas comment ils font tout ça, je sais pas comment ils restent sur demi-pointe pendant autant de temps. Mais donc, mon premier cours avec Merce, c'était très... impressionnant.
Je danse donc ce fameux solo de mon idole, Caroline Brown, et que j'interprétais.
Brigitte Lefèvre.
Et il dit, il me regardait vaguement, comme ça, mon égo était un peu, pas déçu, mais surpris. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et puis après, il me regarde avec cette grande gentillesse qu'il a, et il me dit, mais ça va pas, parce que je crois que mon solo devait faire, je sais plus combien de secondes, et j'avais fait 2 secondes de trop. Elle me dit, il avait son chrono comme ça, il me dit, il y a 2 secondes de trop. Et je me disais, bon, quoi, c'est quand même un peu raide quand même. Et après, j'ai vraiment compris. Si, parce que j'avais pas de musique. Donc, il y avait non pas de coller à la musique, mais c'est de coller à la danse. De coller à l'esprit de la danse, la manière de faire. Pas d'un seul coup de prendre son pied parce qu'on reste en équilibre. Là, là, là. Non. On doit être dans une motricité presque de la danse, dans un aspect organique de cette danse. Et le temps participe de cela.
Et du coup, si on pousse ça un peu plus loin, ça veut dire que le danseur est un simple exécutant de quelque chose qui existe déjà?
C'est une lecture, c'est pas la mienne.
Il a fait attention à vous parce que vous arriviez. Comment ça s'est passé?
Oui, alors Merce, il voit toujours. Il est très... C'est un observateur. Donc même si on voit pas qu'il voit, il voit. Il voit tout. Et alors évidemment, quelqu'un de nouveau qui vient prendre son cours, d'abord il le sait, il en est conscient, il a fait la décision, enfin il a donné la permission, donc évidemment il sait, et puis il est toujours intéressé à voir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelqu'un qui fait les choses un peu différemment, et même quelqu'un qui ne sait pas vraiment tout à fait faire les choses encore, je pense pour lui est très intéressant. Et le premier cours donc, que j'ai pris avec lui, il m'a donné une correction, il m'a dit de tendre ma jambe à l'arrière, de la tendre plus. Il voulait qu'elle soit plus raide à l'arrière. Donc voilà.
C'est tout, vous aviez l'air donc assez au point déjà.
Bah, je pense qu'il voulait pas me donner trop de trucs à penser pour mon premier cours. Je pense qu'il y est allé mollo au début. Après, il en avait plus des corrections pour moi.
Est-ce que vous vous souvenez, Raphaël de Gubernatis, de la toute première fois que vous avez assisté à une chorégraphie de Merce Cunningham ?
Oui, je m'en souviens très bien et j'ai été horrifié de ce que j'avais vu. Ce qui m'a fait comprendre plus tard les préventions de beaucoup de gens, quelquefois. Et plutôt que de mépriser les gens qui n'aimaient pas Cunningham, j'essayais justement de comprendre pourquoi ils n'aimaient pas.
Et pourquoi alors, selon vous ?
En fait, la première fois, je débarquais de Pologne, et la première fois que j'ai vu Merce Cunningham, c'était au Centre Pompidou, dans le forum, où on dansait un event. Mais j'avais trouvé trop académique, tout simplement. Voilà. Simplement, je m'attendais, en voyant Cunningham, que je ne connaissais donc que de nom à l'époque, c'était donc en 79, je crois, ou 80, je ne sais plus, je m'attendais à voir quelque chose de beaucoup plus fracassant. Et sa danse, enfin la chorégraphie, la gestuelle pure, était relativement académique par rapport à ce que j'imaginais. Cependant, ce que je n'avais pas compris alors, c'était que ce qui n'était pas académique, ce qui était justement intéressant et révolutionnaire, c'était sa conception et de l'espace et de la façon de faire circuler les danseurs.
Les events, ça a commencé en 64, la première tournée mondiale, avec du répertoire. Donc il y a une compagnie et des danses de répertoire. Dans le répertoire, ça veut dire qu'il y a un décor. À l'époque, c'est toujours Rauschenberg, qui est le plasticien attitré de la compagnie, et une musique. Donc, ils partent en tournée, ils ont des pièces au répertoire, et pour des pièces de répertoire, il faut des espaces, il faut des dimensions, il faut des cintres pour suspendre les décors, il faut de l'espace pour les musiciens. Or, il se trouve qu'en juin, je crois, ils sont invités au musée d'art moderne à Vienne. Eh ben, à Vienne, c'est trop petit. Et non seulement c'est trop petit, mais il n'y a pas de cintre, pas de la manière dont le public est disposé, ça va être en L. Donc, Merce et John Cage décident de faire ce qu'ils appellent un event.
Et alors, c'est quoi ? C'est à l'extérieur ? Ça peut être n'importe
oui,
où ?
Oui, alors, c'est ça qui fait... On connaît Merce, on dit son œuvre, et souvent les lieux refusent d'avoir des events parce qu'ils ont l'impression que c'est du Cunningham au rabais, parce qu'ils ne vont pas avoir telle œuvre ou telle œuvre plastique, je veux dire. Moi, je me dis, c'est l'œuvre de Cunningham, c'est les events. C'est l'event, ça veut dire sa danse, elle peut avoir lieu n'importe où, dans n'importe quel espace, aussi petit soit-il. Ça peut être en extérieur, effectivement. Il y a des events mémorables, par exemple sur la place Saint-Marc à Venise. Il y a des events, moi, que je me rappelle et qui sont un de mes magnifiques souvenirs, qui sont dans le forum au Centre Pompidou, avant que le hall du Centre Pompidou ne ressemble à la salle d'attente du Concorde. Et tout d'un coup, l'event prenait sa place à une toute autre dimension, qui n'était pas uniquement celle du spectacle dans une boîte noire annoncée dans Periscope.
Il est habillé comme un janséniste, on peut dire, avec un manteau à col très haut qui va jusqu'au cou, ses cheveux toujours un peu fous, et cette tête étrange, hein, cette tête de faune, mais enfin qui me semble tellement respirer l'intelligence, incroyablement intelligente, une belle tête. C'est pas un personnage beau au sens formel du terme, mais beau parce que il dégage quelque chose d'exceptionnel, évidemment.
Raphaël de Gubernatis, Merce Cunningham, né en 1919 dans un milieu qui ne le prédispose pas tellement à faire de la danse, puisque son père et ses frères sont juristes et avocats.
Oui, mais en même temps, apparemment, enfin, d'après ce que Merce disait, un milieu ouvert, son père lui avait dit, ça c'est une chose magnifique, tu feras ce que tu veux, fais ce qu'il te plaît, mais fais-le bien. Il a d'ailleurs voulu faire du théâtre au début, n'est-ce pas, un peu. Et il s'est inscrit dans les cours de théâtre. Mais il avait pratiqué la danse auparavant, plus tôt encore. Et c'est ça, évidemment, qui l'a happé. Mais donc, l'idée, c'était de faire ce que l'on voulait faire, mais de tâcher d'être excellent. Et c'était une rigueur très, très, très protestante et très puritaine. Ça lui a permis, jusqu'à 90 ans, ce qui est quand même un phénomène fascinant, de faire des œuvres qui étaient toujours belles, Quand je dis belle, je veux dire qu'il se tenait toujours. Il n'a jamais dévié, il n'a jamais décliné. Il a composé des ouvrages plus beaux que d'autres, évidemment. Ça, c'est une chose entendue. Mais il n'a jamais fait comme d'autres, comme Béjart, comme même Martha Graham et même Pina Bausch. Il n'a jamais déchu.
Il est tombé amoureux de la danse tout petit. Il avait 10 ans, 11 ans dans son j'ai envie de dire son bled, parce que j'y suis allée, j'ai vu Centralia, c'est quand même... c'est même pas Colmar, hein, c'est trois fois plus petit, quoi. Donc il a fait de la danse, et comme la seule danse possible là-bas, comme souvent aux États-Unis, hein, si on veut faire de la danse en France à 12 ans, on va aller faire du ballet, mais là-bas on fait de la danse de genre, on fait des claquettes, il y a en général une prof qui reste, ou un prof, qui vous fait faire la danse du marin, beaucoup de claquettes, puis du music-hall, enfin, ce qu'on appelle nous le music-hall, et puis qui fait des tournées dans l'État ou dans le comté. Et donc il a fait ça tout petit, tout jeune, et ça il a adoré.
Donc à 19 ans, vous le disiez, Denise Luciani, il est débauché, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, par Martha Graham. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça représente dans la vie de Merce Cunningham, ce passage chez Martha Graham?
Bon, alors Martha Graham, à l'époque, c'est la grande dame de la moderne danse, hein, ce qu'on appelle moderne danse. Donc c'est le courant de danse qui s'est opposé à la tradition du ballet, qui était un peu inexistante aux États-Unis, mais c'est la danse du début du XXe. Alors Martha Graham, c'est... Bon, donc cette grande dame, il la rencontre dans un stage, en fait. Il n'est pas débauché, il veut danser. Bon, donc il fait ses études à Corniche, c'est 3 ans, il fraque 2 ans parce que la deuxième année, il rencontre John Cage, quand même une rencontre fondamentale. John Cage vient remplacer le pianiste d'un cours de Bonnie Bird. Bonnie Bird est une danseuse de Martha Graham. Et puis, il va faire un stage au Connecticut College, je crois. Il est immédiatement repéré. Martha Graham lui dit, si vous venez à New York, venez me voir. Donc, il va voir Margaret, qui a l'air étonnée de le voir, mais il va danser avec elle pendant 4 ans, 5 ans.
Alors, qu'est-ce que ça lui apporte? Et finalement, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il va prendre sa voix à lui? Enfin, comment se fait un peu le processus dans sa tête?
Alors, déjà, il n'aime pas raconter, enfin, il n'aime pas exprimer. Ça, c'est un truc qui lui plaît pas du tout. C'est quelqu'un de très expressif. Il a toujours un visage très, très expressif et il donne toujours l'impression de raconter quelque chose. Mais il veut pas imposer. Donc, c'est fascinant parce qu'il peut danser. Elle crée des rôles pour lui. Enfin, il est spectaculaire. Il est remarqué. John Cage, en revanche. Qu'il retrouve à New York, parce qu'il se retrouve à New York. John Cage, je lui dis, franchement, fais tes danses et je ferai ta musique.
Je lui avais sorti une phrase de Martha Graham. On avait demandé à Martha Graham, donc chez qui il avait dansé, donc, et qu'il avait quitté avec un certain fracas, si l'on peut dire, surtout pour inventer un monde qui était en rupture totale avec celui de Martha Graham. On demandait à Martha Graham si elle n'allait jamais voir les spectacles de Merce Cunningham. Elle avait répondu, oh, il y a déjà assez d'occasions de souffrir dans la vie. La vie est une chose assez tragique pour ne pas en plus s'appuyer les spectacles de Merce Cunningham. Et j'avais raconté ça à Merce. Et qui m'avait dit, c'est étrange de la part de Martha, parce qu'elle a toujours été une grande tragédienne, elle a toujours été tellement éprise de douleur qu'elle devrait justement venir voir mes spectacles. Il a travaillé comme un forcené dans des conditions terribles de pauvreté, dans des studios mal chauffés ou pas chauffés du tout. Il a travaillé pendant des années sur lui-même pour trouver un nouveau langage. Et c'était un travail d'assaise extraordinaire. Et de solitaire, hein, vraiment. Ensuite, il a commencé à travailler avec des danseurs. Et peu à peu, il s'est révélé tel qu'il est devenu. Mais les premières œuvres qu'il a composées n'avaient pas grand-chose à voir avec ce que l'on a vu maintenant. Il était devenu beaucoup plus classique, en fin de compte, mais dans le noble sens du terme, hein, plus épuré encore. Et toutes les côtés un peu qui nous sembleraient probablement encore aujourd'hui être provocateurs ou étranges, ont été gommés peu à peu.
C'est une de mes grandes fascinations, que ces deux êtres se soient rencontrés et pu apprécier, par exemple, James Joyce. Alors, je ne sais pas qui a apporté James Joyce à l'autre. Bon, le zen. Bon, ça, je sais que ça vient de John Cage, puisque avec le docteur Suzuki, on a suffisamment parlé. Mais le Yiking, mais le... ces espèces de fils conducteurs, comme ça, c'est la nature, le ciel, l'océan, enfin, je ne sais pas qui a porté à l'autre en premier, et je ne sais pas sous quelle forme.
En tout cas, John Cage était plus connu à un certain moment, et il est probable que John Cage a permis aussi à Merce Cunningham, d'une certaine manière, d'être lancé.
Oui, mais il le faisait systématiquement. On l'invitait à Black Mountain, alors il disait « Je viens avec un danseur ». Anna Alprin l'invitait au Dance Deck. Il disait, parce qu'il faisait beaucoup ça au début, ils appelaient ça des « dialogues » ou des « lecture demonstrations ». Et donc, il y en avait un qui faisait de la musique et l'autre qui dansait. Bon. Et c'est vrai que la tournée de 64 a beaucoup eu lieu grâce à John Cage. Et grâce à Rauschenberg, qui a eu le prix de la Biennale de Venise cette année-là. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une période où, oui, la réputation de John Cage a pu aider la carrière de Merce. D'ailleurs, la réputation de John Cage attirait un certain public. La réputation de Rauschenberg attirait un certain public. Et c'est là aussi, j'ai envie de dire, le malentendu.
Pourquoi ? Parce que John Cage et Rauschenberg attiraient un public très très pointu ?
Non, au contraire, c'est parce qu'ils attiraient un public autre que le public de la danse. Ils attiraient des amoureux de la musique, ils attiraient des amoureux des arts plastiques. Et c'est ce public-là qui, d'abord, a été fasciné par Merce Cunningham. Et d'ailleurs, Bénédicte Pell, c'est parce qu'elle voyait...
Elle était son agent.
Bénédicte Pell, effectivement, a représenté Merce Cunningham depuis les années 60. C'est parce qu'elle venait des arts plastiques et qu'elle avait l'impression de voir un tableau bouger. Et c'est là aussi qu'on comprend que Cunningham ne raconte pas des histoires, mais qu'il offre autre chose à regarder.
Ils ont partagé, je crois, beaucoup d'humour, parce que Cage avait beaucoup d'humour. Merce aussi, d'ailleurs, mais Cage en avait beaucoup. Il était très drôle, très facétieux, surtout. Très, très facétieux. Dans je ne sais quel pays, probablement en Italie, d'ailleurs, des sœurs, des religieuses, des religieuses de Saint-Vincent, en cornette, étaient venues voir le spectacle. Et Cage, qui n'avait jamais vu apparemment les cornettes qu'on ne porte plus maintenant, que portaient les religieuses à l'époque, les religieuses de Saint-Vincent, avait trouvé ça admirable, fantastique, et il avait réussi à en obtenir une, on ne sait jamais comment. Apparemment, il a dû circonvenir une sœur, et il est revenu, coiffé de la cornette, et évidemment, les danseurs ont beaucoup admiré ça. Il faisait des choses aussi folles et aussi loufoques. Mais en toute candeur, disons. Ce qu'ils se sont apportés, c'est que Cage a poussé Merce à aller au-delà de ses possibilités, n'est-ce pas, à travailler en solitaire pendant longtemps et à travailler très courageusement dans des conditions difficiles, en le soutenant intellectuellement et en lui apportant évidemment les théories orientales sur lesquelles Merce a commencé à fonder son travail, qui a permis à Merce de, et c'était une chose essentielle, de travailler sur la notion de hasard.
Dès 50, 51, 52, dès qu'ils ont découvert le Yiking avec John Cage, il a tiré au sort le mouvement. Ça voulait dire, justement, il n'allait pas s'inspirer de son imaginaire ou de sa vision. Il tirait au sort toute la répartition du mouvement. La distribution dans l'espace, et puis quelle partie du corps bougeait, dans quel sens, dans quelle direction. Combien de danseurs dansaient en même temps, c'était des tirages au sort interminables. Donc en fait, il a depuis extrêmement longtemps, il a refusé tout ce qui était inspiration.
Une des choses importantes à ce moment-là, c'était la publication de l'I-Ching.
I-Ching, oui, le contexte chinois.
Oui, dans une édition anglaise. Et ça m'intéresse beaucoup, l'idée d'accepter le moment et... À ce moment-là, j'étais travaillé avec les idées de l'espace et de temps et de mouvement. Et je pense que c'est possible d'utiliser ces idées. On acceptait ce qu'on trouve à ce moment et puis on accepte le prochain moment avec quelque chose de différent. Mais pour la danse, il faut trouver la manière d'aller l'un à l'autre. avec le hasard, vous choisissez la continuité. Par exemple, peut-être ça commence avec la phrase 2 et après ça vient la phrase 10. Il faut trouver la manière d'aller l'un à l'autre. Et quelquefois c'est simple, quelquefois c'est difficile. Aussi, plus, combien de danseurs dansent des phrases? Par exemple, dans la phrase 2, peut-être c'est 10 danseurs, choisis par hasard, et avec la phrase 10, c'est un danseur. Et ça, c'est un grand change. Il faut trouver une manière de faire ça. Aussi avec l'espace, les mêmes idées. Je divise l'espace comme une grid.
Comme une grille, comme une...
Oui, avec 64 positions. Et la phrase 2 va là, et la phrase 10 va dans une autre direction. Comment on fait ça?
Pendant des siècles, le ballet, la danse classique, s'écrivait sur une musique. Hein, d'abord, la musique existait, ensuite on écrivait la danse. La moderne danse a un peu bouleversé la donne en se créant et en commandant de la musique qui s'appliquerait à la danse. Et là, d'un seul coup, parce qu'on a affaire à deux individus extrêmement indépendants et d'un côté Cage, d'un côté Cunningham, eh ben, ils décident de ne pas travailler ensemble. Ils décident que la seule chose qui va être partagée, c'est le temps et l'espace.
Et chacun travaillait indépendamment. C'est une chose fascinante. Cage composait ses partitions, Cunningham ses chorégraphies. Leur seul point commun, c'était le temps, c'était la durée. On décidait de faire une pièce qui durait ou 20, ou 30, ou 40 minutes, enfin, et quelquefois moins. C'était le seul point d'action, avec de temps en temps des pointes quand même dans la densité. Mettons qu'au bout de la cinquième ou sixième minute, Meurs pensait créer des mouvements plus rapides, par exemple, hein, j'invente, mais c'est aussi une réalité qui a existé quand même. Et donc, du coup, Cage était censé éventuellement, au même moment, donner une autre impulsion à la musique. Voilà, mais c'est rien, peu de choses, très peu de choses. Quant à la scénographie, c'était un peu le même esprit. Le scénographe, puis des scénographes de prestigieux, hein, justement, comme Rob Schoenberg ou Jasper Johns et d'autres, assistaient très très peu au spectacle, enfin au spectacle, je veux dire aux répétitions. Ils échangeaient des propos, évidemment, avec Meurs, mais fort peu. C'était une idée générale qu'on se donnait, et ça créait quand même des miracles, puisque c'était des gens quand même qui avaient entre eux une complicité extrême, une complicité intellectuelle, c'était une famille intellectuelle, on peut dire, hein, une famille de sensibilité. Et donc, ces trois individus indépendants créer des œuvres qui avaient une unité extraordinaire.
France Culture, aujourd'hui nous parlons du chorégraphe américain Meurs Cunningham.
J'ai des souvenirs extraordinaires au Théâtre de la Ville. Je me souviens notamment grâce à la musique. Et à John Cage, je me souviens, une après-midi, il avait enregistré, il y avait une matinée et soirée, et John avait enregistré un spectateur furieux qui disait « on se fout de nous, waouh, en lui, hein !» Et il avait enregistré, et le soir même, il avait repassé dans une bande qui accompagnait, il avait remixé sans doute, et il avait rebalancé le type, « ouais, furieux hein !» Alors évidemment, c'était... Bon, ça rappelle certaines aventures qu'on pouvait voir au Festival de Royan et autres dans la musique contemporaine. Mais lui, c'était particulier parce que c'était vraiment une musique avec ses décors, avec cette danse, avec cette difficulté de cette danse, avec l'excellence de ces danseurs. C'est quelque chose qui était en mouvement. C'est un monde entier qui était en mouvement. C'était plus le ring.
C'est quelqu'un que j'ai appris à respecter énormément, parce que le plus j'ai lu, le plus son obstination et son côté borné sont apparus comme pour moi une intégrité exceptionnelle. C'est que effectivement, moi je suis arrivé dans la compagnie où la compagnie était reconnue, où on faisait des tournées mondiales, mais en lisant des textes des années où c'était pas comme ça, et de voir qu'il a enfin, que jamais à un seul instant il a pensé à changer de, à essayer de séduire son public, à essayer de faire des choses que les gens, non mais meurs, si tu mets une autre musique, ça va, je te jure, on va vendre beaucoup plus de billets, ou les gens vont arrêter de partir. C'était pas son propos. Son propos, c'était pas du tout de séduire les gens. Après, ça veut pas dire qu'il était pas sensible au fait que les gens aiment son travail. Mais il n'était pas prêt à changer de ligne de conduite pour que les gens aiment son travail. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était une belle leçon d'art, quoi, et puis de vie.
Ben Meurs, il aimait beaucoup, sur la fin de sa vie, nous raconter des histoires. Et donc, moi, les deux années où j'étais un apprenti, donc quand la compagnie partait en tournée, c'est là qu'il travaillait avec nous au niveau de la création des nouvelles pièces. Et il était très exigeant. Et alors, en même temps, nous, on adorait travailler pour lui. On adorait danser toute la journée. Mais bon, il y a des moments où la compagnie était partie. Et c'était 5 heures de travail avec Meurs. Et on est 4 apprentis. Donc, on danse plus ou moins tous tout le temps. Et Meurs, alors des fois, il était tellement pris dans son truc qu'il oubliait un peu. Alors, on lui disait Meurs, on peut faire une pause. Il disait, oh, yes. Alors, on s'arrêtait. Mais en général, on revenait assez vite. Et donc, il y a des moments vers la fin de la journée, si on était vraiment très fatigué, au lieu de prendre une pause et de sortir du studio, d'aller prendre de l'eau, on venait s'asseoir devant lui et on venait s'étirer. Et ça, c'était le... Là, on avait droit à une histoire. Et là, en général, notre pause était plus longue.
Alors, qu'est-ce qu'il pouvait raconter comme histoire ?
Des moments où la compagnie faisait des tournées en bus Volkswagen. Et alors là, c'était... Il disait que le bus, il allait à 60 à l'heure et qu'il allait à 60 à l'heure en descente. Alors, vous imaginez être en tournée dans les États-Unis avec ça, quoi. Et il racontait des histoires comme... il avait une place par personne pour la compagnie. Et donc, il n'y avait que la compagnie, lui, John Cage, un autre musicien et puis un directeur de la compagnie, quoi. Et c'était tout. Et il se baladait comme ça, il vivait un peu les uns sur les autres... Et je pense à l'époque c'était quelque chose de très différent parce que vraiment là du coup c'était un pionnier et il y avait beaucoup d'endroits où ils n'étaient pas compris, où ils n'étaient pas acceptés quoi, parce que ce qu'ils faisaient c'était tellement nouveau.
Jusqu'au jour où un jour Cage ayant gagné un concours autour dont le thème était des champignons, puisqu'il était très amateur de champignons, a amassé un peu d'argent et ce qui lui a permis d'acheter un bus Volkswagen. Et ce bus Volkswagen mythique a été le véhicule de toute la compagnie pendant bien des années.
Et alors, vous racontez dans votre livre, Raphaël de Gubernatis, comment à Black Mountain ou ailleurs, il y avait des compagnies qui se croisaient. Donc, il y avait la compagnie de Meurs Cunningham, et puis il y avait d'autres compagnies. Et les danseurs de Meurs allaient se coucher très tôt, parler assez peu par rapport aux autres danseurs des autres compagnies qui avaient l'air de passer beaucoup plus de bon temps. Donc, il y a quand même cette idée... d'austérité très grande au sein de la compagnie de Meurs Cunningham.
C'est arrivé un peu plus tard, parce que au tout début, non. C'était une joyeuse bande. Hein. Meurs était un peu sec quand même. Cage était plus drôle. Viola Farber le raconte très bien. Ils étaient très dissipés. Et Meurs rétablissait la discipline. En plus, il n'aimait pas trop qu'on rit. Je sais que dans le Caire, un jour, les danseurs s'étaient amusés à imiter avec des bruits épouvantables, des bruits incongrus, la musique de Cage, et que ça avait beaucoup heurté Meurs. Eux étaient facétieux. Non, la période plus raide, disons, est venue plus tard, dans les années 70, où là, il y avait toute une compagnie très, très brillante, d'ailleurs, avec des personnages très intéressants, mais très, très puritains. Et ils étaient assez secs, assez froids, très froids même. Et Robert Kovitch, qui a été un des plus, sinon le plus beau des danseurs de Cunningham, le plus magnifique avec deux ou trois autres, racontait combien il avait été horrifié un jour quand il s'était retrouvé en tournée avec la compagnie, je crois, de Paul Taylor. Une compagnie où tous les danseurs étaient amis, s'aimaient, s'embrassaient, avaient l'air de s'apprécier fort. Et une de ses camarades, une des danseuses de la compagnie Meurs Cunningham, avait dit avec un air dégoûté « Bois, mais ils s'aiment en plus !»
Alors Cédric Andrieux, vous racontez dans votre spectacle la période que vous avez passée dans la compagnie de Meurs Cunningham et la méthode Cunningham, dont on sait qu'elle est difficile. Vous racontez aussi comment, au quotidien, c'est pas facile de travailler avec une exigence aussi forte.
et le quotidien d'un danseur, bah, c'est pas le, ça reste un quotidien. Donc on va pas tous les jours travailler en se disant que c'est génial ce qu'on va faire. En plus, le travail de Merce Cunningham est physiquement très difficile, parce qu'il peut être douloureux, parce qu'on travaille dans les extrêmes, que la demande est d'aller toujours plus loin, d'essayer de repousser les limites de son propre corps.
Mais ça spécialement avec Merce Cunningham ?
Oui.
Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Je pense que lui, c'est toujours quelque chose qui l'a intéressé, de pas se satisfaire de ce qu'il pouvait faire. Je vais travailler très très longtemps pour essayer de faire quelque chose, et puis le jour où j'y arrive, je vais essayer de travailler pour le pousser encore plus loin.
Et ça, encore une fois, ça lui est très spécifique, parce qu'on se dit que a priori les danseurs et les chorégraphes, ils sont dans cette démarche-là. Donc qu'est-ce qui fait la spécificité Cunningham, qui fait que quand on prononce son nom, on fait oh là là, c'est difficile.
Je pense que c'est sa spécificité quand même, d'être dans un extrême physique comme ça. Après, évidemment, il y a plein, tout créateur essaye d'aller plus loin, sauf que Merce, oui, il est resté très borné, et il est resté quand même juste sur cette étude du mouvement et du corps humain, et comment, avec ce même outil, faire 50 ans de pièces différentes, de pièces qui évoluent. Et moi, enfin, de mon expérience de danseur, c'est vrai que c'est physiquement la chose qui a été la plus éprouvante. Après, j'ai fait d'autres choses qui étaient aussi difficiles. Enfin, le travail de Matsek demande beaucoup pour les danseurs, parce qu'on essaie toujours d'aller plus loin, que ce soit plus grand. Mais il y a aussi toute cette notion émotionnelle qui l'amène, qui fait que voilà, il y a d'autres choses qui sont en jeu, alors qu'avec Merce, on est vraiment sur cette étude du corps, du muscle, qui va essayer d'aller encore plus loin, qui va être encore plus d'essayer de faire un mouvement qui est encore plus visible, encore plus grand.
Il y a des moments où vous vous dites là quand même, il se moque de nous.
Il y a des moments où on baisse les bras. Enfin, moi, il y a plein de moments où j'ai baissé les bras. Je me suis dit ça très bien. Je comprends la demande, mais physiquement, je suis incapable de la réaliser. Alors après, quand effectivement on voit quelqu'un qui est capable de la réaliser à côté, du coup on se dit peut-être que je vais essayer de me pousser au cul un petit peu. Mais il y a des moments où on baisse les bras. Enfin, moi, il y a des moments où j'ai baissé les bras. C'était trop dur.
Et vous lui en avez parlé à ce moment-là ? Est-ce que vous allez le voir pour lui dire j'ai des doutes, là pour moi c'est peut-être trop. Comment est-ce qu'il pouvait réagir à ça ?
Non, on parlait. Avec Merce, il y a plein de choses qui passaient pas du tout par la parole. Je pense qu'il croyait pas trop à l'idée de parler du mouvement qu'on allait faire. Il disait toujours the best way to do it is to do it. On va pas en parler 3 heures. Mais je pense qu'il avait il le savait que ce qu'il nous demandait était très difficile. Donc je pense qu'il y avait une certaine compréhension dans le fait que on pouvait à un moment ou à un autre baisser les bras. Dans la mesure où c'était pas un état général, où c'était pas on baisse les bras jusqu'à la fin de notre carrière dans cette compagnie.
Mais du coup, est-ce que quand on est danseur avec lui, on se sent d'une certaine manière assez loin de lui, parce que précisément il ne parle pas ?
Ouais, on se sent. Moi j'ai passé les 8 ans dans la compagnie, à penser que j'étais très loin de Merce. Et après, ça arrive, les moments qu'on peut avoir avec lui de proximité ou de complicité, c'est des moments qui sont très, très rares, mais c'est vrai que quand ils arrivent, c'est magnifique. Moi, je me souviens du dernier mois que j'ai passé dans la compagnie, où je devais apprendre mon rôle à la personne qui me remplaçait. Et où là, tout d'un coup, Merce avait envie de me dire beaucoup plus de choses que les 8 ans que j'avais passé dans la compagnie, où il m'a dit que j'allais lui manquer, où tout d'un coup, il y a eu plein de choses qui se sont dites, mais effectivement, le dernier mois.
Mais ça, vous dites dans votre spectacle que c'est ce dont vous auriez eu besoin au début, quand c'était le plus difficile. Alors pourquoi est-ce que finalement, il y a cette difficulté à parler, ou cette espèce quand même de dureté un peu monacale qu'on entend comme ça dans les témoignages des gens qui ont travaillé avec lui, ou en tout cas de certains d'entre eux.
pour moi, c'est pas forcément monacal l'idée que j'en ai, mais c'est plus de, c'est quelque chose de très professionnel. On est là pour travailler. Je pense que Meurs a jamais voulu assumer le rôle du chorégraphe papa ou du chorégraphe psy ou du chorégraphe ami. On est là pour venir travailler. Donc effectivement, à 22 ans, 23 ans, peut-être que j'en avais besoin. En même temps, j'ai aussi trouvé des moyens de faire sans. Et de trouver peut-être une complicité avec certains danseurs, de... et puis d'essayer d'exister moins dans le regard de l'autre, quoi, dans le regard de Meurs, ou dans le... Oui, évidemment, dans le regard du spectateur. Donc de tout d'un coup danser, de trouver des façons de danser pour moi et de me satisfaire ou pas de ce que je faisais sans que c'est à passer par le regard de l'autre.
Avec les côtes, oui, exact, exact. C'est très, très, très mieux avec le torse et les côtes. Un peu comme j'ai dit à Johan, avec le tilt un peu plus direct dans le front. Dans le front, oui. Et pour ça, c'est une diagonale. C'est oui, exactement. Mm-hmm. Parce que de temps en temps, c'est juste la tête. Oui, c'est vraiment le torse. Oui, exact.
Alors donc la technique, c'est une technique qui a été créée par Meurs. À partir du moment où il a créé sa compagnie, très tôt dans les années 50, il a commencé sa compagnie en 53. Très tôt, il a fallu qu'il crée une classe pour que ses danseurs puissent apprendre en fait à danser son mouvement. Parce qu'il n'y avait rien qui était fait de cette manière-là au niveau chorégraphique. Et donc, il n'y avait aucun outil dans le monde de la danse qui n'avait été créé pour ça. Donc lui, il s'est dit qu'il fallait qu'il trouve une manière de vraiment protéger ses danseurs de la blessure et puis d'apprendre leur corps à bouger.
Parce que c'était trop dur.
La manière dont il se servait du dos entier... était très différent de tout ce qu'il y avait avant.
Pourquoi ?
En fait, c'est si on prend les jambes d'un danseur classique et on met le torso d'un danseur contemporain. Donc c'est vraiment une distinction. C'est-à-dire que le torse est très en souplesse. Il y a vraiment en souplesse et à la fois en force. C'est-à-dire que tout vient du centre du corps. Donc c'est un élément très essentiel et c'est un élément très fort du corps. Le dos, le mouvement, le fait que le dos puisse bouger beaucoup pendant que les jambes sont très précises et rapides.
Et pourquoi ça n'existait pas avant? Parce que ça paraît d'une certaine manière assez logique.
Je pense que jusque-là, c'était soit des danses très codifiées comme le classique, où il y avait une esthétique particulière qui est encore là, qui n'avait pas forcément de place pour des dos un peu tournés ou presque en fait tordus de manière un peu... pas naturel. Le classique, c'était très il faut qu'on ait l'air beau, il faut qu'on ait l'air élancé. Et après, il y avait le moderne, mais le moderne, à l'époque, c'était plus organique. C'était plus quelque chose que une manière de danser, je pense, où tout faisait sens. En fait, le corps entier comprenait le sens du mouvement. Alors que Meurs, il a arrêté ça, il a dit je veux pas danser de manière organique, je veux pas faire ce qui me vient en premier, je veux pas faire ce qui est facile pour mon corps, je veux faire autre chose. Je veux trouver un truc qui est pas facile pour le corps, un truc qui va m'obliger en tant que danseur, mais aussi simplement en tant qu'athlète, à utiliser mon cerveau et à vraiment réfléchir à ce que je fais avec mon corps.
Mon expérience avec Cunningham s'est faite en janvier 4.
Laurent Hilaire.
Janvier 86, puisque je venais d'être nommé par Rudolf Nureyev, danseur étoile, sur le Lac des Cygnes en novembre 85. Et en fait, pour la petite histoire, Rudolf, je venais donc de faire cette création. Et Rudolf m'a dit voilà, dans 15 jours, il y a la première de Cunningham, je voudrais que tu y participes. On a besoin d'un danseur et je voudrais que tu le fasses. Il y a une image qui m'a, dont je garde des spectacles en scène. Il y avait une position où je me retrouvais les deux bras en croix, donc le dos complètement dilaté, je dirais, avec cette perception de posséder un petit peu l'espace, la continuité de mes bras, de mes jambes. J'étais sur deux demi-pointes. J'avais à la fois le sentiment d'être pratiquement planté sur scène et à la fois d'avoir cette perception de vraiment de cette grande scène autour de moi. J'étais seul et à la fois je remplissais cette scène. Il y avait cette puissance dans le dos et dans les bras et à la fois cette légèreté due à la demi-pointe. Et en même temps, cette légèreté confinait un véritable ancrage dans le sol. À la fois, j'étais enraciné d'une manière relativement légère et à la fois ce qui me permettait de, comme un arbre en fait, vous savez, avec les ramures à la fois et les feuilles qui sont les la continuité un peu de voilà des branches et de quelque chose qui se nourrit à la fois de tout ce qu'il peut y avoir autour de vous.
Alors là où vous n'avez pas tort en parlant d'arbre, c'est qu'il était très proche de la nature, il avait un amour des oiseaux.
Est-ce qu'on peut faire aussi avec le corps, alors, c'est ça?
Alors, ce qu'on peut faire avec le corps, il cherchait à repousser les limites. Donc, le tirage au sort, pour commencer, c'était une manière de sortir de ses propres limites. Comme, de même que John Cage voulait sortir de ses propres limites de composition. Donc, ensuite, quand on lui a proposé de collaborer à l'invention d'un logiciel... Il a été évidemment ravi, et à partir de là, il a beaucoup travaillé avec ce logiciel qui a pris plusieurs noms, enfin, Lifeforms. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que tout d'un coup, il manipulait le petit personnage dans le logiciel, et puis il lui faisait tourner la jambe autour du genou. Bon, si on réfléchit deux secondes, c'est totalement impossible. Personne. Mais, alors... Ça ne l'arrêtait pas. Il travaillait avec un danseur et il disait, voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et ensuite, le danseur ou les danseurs inventaient quoi faire avec ça. Donc oui, il voulait dépasser, et il a dépassé très très largement l'invention possible à partir d'un imaginaire personnel ou d'une créativité personnelle, mais il n'a jamais oublié les corps et les danseurs qui allaient exécuter ces mouvements.
Avec l'utilisation de l'ordinateur, parce que à partir du début des années 90, il a utilisé l'ordinateur pour encore élargir son champ de création. Et donc ça fait qu'on se retrouve à faire des sauts dans les airs, et puis tout d'un coup, dans l'air, à faire trois mouvements de buste différents, avec des bras qui changent. Là, tout d'un coup, ça devient extrêmement complexe, parce qu'effectivement, la petite figurine avec laquelle il travaille sur son ordinateur, il n'y a pas de loi d'apesanteur, alors que nous, on peut pas rester dans les airs indéfiniment, et on se retrouve à devoir faire des choses abracadabrantes, faire une curve, un tilt et un twist avant d'atterrir par terre. Donc ça relève quand même... d'une certaine virtuosité qui est dure à atteindre.
Non, tilt avec le plié, une seconde, et après, au centre. Oui.
Les mouvements ne viennent pas d'une source d'inspiration comme ça, extérieure ou autre, mais comme pendant des années, il a été obligé de dire ce que raconter entre guillemets, ses danses, par exemple à la SACD, quand il déposait une danse, il fallait bien qu'il invente un argument. Ah ben alors, systématiquement, son argument, c'était... Je dirais assez systématiquement. C'était organisme vivant dans une mare, ou bien mouvement du vent dans les branches des arbres, ou bien circulation des piétons vue de ma fenêtre.
Meurs pensait que son œuvre pourrait lui subsister. C'était un souhait. Il n'était pas très clair à l'origine. Il pensait que après sa mort, tout disparaîtrait. Et puis en même temps, il souhaitait que cela ne disparaisse pas. Vous savez, c'est la contradiction perpétuelle dans laquelle sont beaucoup d'artistes, qui est très compréhensible au demeurant. La solution qu'ils ont trouvée, eh bien, c'est une solution qui leur a paru sage. Elle est dure, évidemment. Mais il est clair aussi qu'une compagnie ne peut pas éternellement se maintenir, enfin, une compagnie qui n'est pas une compagnie de répertoire, n'est-ce pas? Une compagnie comme le ballet de l'Opéra de Paris, le ballet de l'Opéra de Lyon peuvent tenir éternellement, elles, pour autant qu'elles aient de bons directeurs artistiques, évidemment. Mais une compagnie attachée à un chorégraphe ne peut pas durer éternellement dans la mesure où le chorégraphe n'existe plus. Donc voilà, ils ont décidé de la saborder à un moment donné. Mais on peut voir le contraire également. La compagnie de Martha Graham, elle, a décidé de tenir. Et récemment, au Théâtre du Châtelet, elle est revenue, après une période de ruine épouvantable, elle est revenue miraculeusement belle, avec donc des danseurs magnifiques, avec une nouvelle direction intelligente et brillante. Et donc, ils peuvent tenir ce répertoire de façon extraordinaire, sans probablement le trahir.
Vous, quand vous avez dansé pour lui, il était déjà en chaise roulante ou au départ, est-ce qu'il pouvait vous montrer encore quelques mouvements ?
Il était en chaise roulante parce que ses articulations étaient très douloureuses. Mais il marchait encore. Et donc quand il venait, quand il nous donnait des cours, il venait en chaise roulante, puis il se levait, il marchait jusqu'à la barre, il s'asseyait, il nous donnait le cours. Donc il arrivait, alors ses bras jusqu'au bout, il nous montrait. Voilà. Et les pieds, il tapait des rythmes avec ses pieds. Donc même s'il ne pouvait plus nous montrer des mouvements de jambes trop, mais il nous montrait des rythmes. Et puis alors après, on apprenait à lire quand même son corps. Donc en fonction de comment il positionnait son pied, c'était très subtil. Je pense que personne d'autre aurait pu le voir, mais on savait exactement ce qu'il voulait en fait.
La dernière fois que je l'ai vu, en fait, c'était au Théâtre de la Ville. Nous avions pris rendez-vous et il était déjà en fauteuil roulant. Et c'est peut-être la dernière image que j'ai de lui, disons, parce qu'elle était très très belle. Je lui avais demandé s'il n'était pas trop dur, trop douloureux pour un homme comme lui qui avait été un danseur fabuleux en plus, parce qu'on ne peut pas oublier ça. Outre le fait qu'il était un chorégraphe qui a révolutionné le monde de la danse, il avait été un magnifique danseur, extraordinaire. Et donc, s'il n'était pas trop dur pour un danseur aussi magnifique qu'il avait été, et un homme qui avait aimé la danse d'une façon passionnée, et qui avait aimé de façon passionnée d'être sur scène, hein, s'il n'était pas trop dur de se retrouver dans un fauteuil roulant. Et il m'avait dit cette chose extraordinaire, quand même, qui suppose une immense sagesse. Il m'avait dit, douloureux, je ne dirais pas. Difficile, oui, sans doute. Mais en même temps, le fait d'être maintenu dans un fauteuil roulant, enfin, qu'il ne pouvait plus guère marcher, il pouvait se tenir debout, mais il ne pouvait pas vraiment cheminer. Ça m'oblige à considérer mon corps d'une façon différente. Je le vois se dégrader, je vois que mes rapports avec les danseurs sont différents, et du coup, ça m'oblige à inventer de nouvelles choses. Et ça, c'était fascinant. Je veux dire que de son infirmité, enfin, de son âge, des infirmités venant avec l'âge plutôt, il tirait encore une énergie nouvelle.
Focus un peu à nous. Gardez les bras à côté. Les talons un millimètre off the floor. Devant avec focus. Le pli. Très bien.
C'était une vie, une œuvre. Une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, lien, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et le week-end prochain, nouveau jeu des pairs. Samedi, Joseph Roth, écrivain, journaliste. Dimanche, Ernst Lubitsch, cinéaste. Tous les deux en exil, ils auraient pu devenir amis dans le Berlin des années 20. Mais dans un instant, c'est le journal, juste avant les passeurs de science.